13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, le 13-14 à Saint-Dié-des-Vosges aujourd'hui, dans le cœur souffrant de l'actualité et de la campagne électorale. L'hôpital, ici, il y a 250 lits, c'est un hôpital de taille moyenne. Retour un peu plus de 3 heures en arrière ce matin, 9h37, devant l'écran de régulation du bloc opératoire. Le professeur Mestelman, anesthésiste, réanimateur, ça coince déjà.
Vous voyez le tableau, deux difficultés aujourd'hui. Il y a des urgences qui sont arrivées cette nuit, qu'il va falloir rajouter au programme. Et à ça, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on vient d'apprendre que l'infirmière qui devait être de garde cette nuit pour le bloc est en arrêt maladie, bon, probablement le Covid dans cette période.
Ici, 15% du personnel est absent. Autre chiffre clé pour les débats que nous aurons dans l'heure à venir, la moitié des médecins viennent de l'étranger. Alors en reportage et avec nos invités ici à l'hôpital de Saint-Dié, le constat, les pistes de sortie de crise, la double vague de Covid, le manque de personnel, la crise de l'hôpital dans une région touchée elle aussi par la désertification médicale. Que proposent les candidats? Premier reportage dans la cellule de crise Covid réunie hier, c'est dans un instant. 332 252 malades du Covid en plus hier en France, nouveau record. Cette crise dure depuis 2 ans. Ici, à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, nous sommes donc dans la petite pièce où se fait la régulation du bloc opératoire. Un écran avec 6 colonnes principales, comme autant de salles d'opération. 4 sont actives actuellement et vous voyez que la situation va vite. On parlait d'une infirmière absente dans les titres. Eh bien, le professeur Mestelman vient de me dire à l'instant qu'il avait appris que 3 autres infirmières étaient symptomatiques. Alors, côté Covid, le plan blanc a été déclenché ici le 9 décembre. Ce n'est pas le raz-de-marée. Lors de la première vague, l'hôpital avait accueilli jusqu'à 85 patients. Là, on est à 10 pour 12 lits Covid. Mais vu la vitesse de propagation du virus, on s'inquiète pour les jours à venir. Ici, comme partout, le cocktail Covid plus fatigue, plus hiver est redoutable. D'autant qu'il est tombé ce matin une petite pluie neigeuse qui remplit habituellement les urgences. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter. Véronique, vous vous êtes glissée hier dans un endroit crucial de l'hôpital.
Oui, comme chaque semaine, il y avait cellule de crise hier après-midi à l'hôpital. Le directeur des soins, Pascal Léonforte, a réuni le staff médical en présentiel et en visio pour faire le point de la situation. Ce qui est sûr, vous allez l'entendre, c'est que l'hôpital est déjà bien rempli et qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Bonjour à tous. En ce qui concerne notre établissement, nous avons atteint quasiment les 93% de taux d'occupation sur l'ensemble des services. Donc on voit qu'on est quand même extrêmement limité aujourd'hui en termes d'hospitalisation potentielle.
D'autant plus limité que les effectifs ne pourront pas suivre. L'hôpital a déjà une dizaine de postes d'infirmières vacants. Il y a aussi l'absentéisme habituel, on va dire, les congés maternité notamment, mais aussi depuis quelques jours, des cas de Covid qui se multiplient au sein du personnel.
J'ai refait le point là juste avant de rentrer en cellule de crise. Nous avons 25 infirmières aujourd'hui qui sont arrêtées. Les cas continuent à augmenter progressivement chez nos personnels.
Des lits déjà bien remplis et un effectif très contraint si les choses se gâtent. Alors on fait comment? Demande le docteur Marie-Françoise Bragard. Elle est chef du pôle médecine urgence et s'inquiète pour le week-end d'avenir.
On peut monter à combien précisément sur le secteur Covid parce que ça va être une cata. Je m'inquiète d'autant plus que c'est ma pomme qui s'occupe du Covid dimanche, donc il va falloir trouver des lits.
Pour dégager de la place, le directeur des soins veut éviter d'aller au-delà des 20% de chirurgie déjà déprogrammée. Il préfère pour l'instant rouvrir des lits qu'on avait fermés en médecine, faute de personnel. Mais forcément, si on les rouvre à effectif constant, il va falloir réorganiser et intensifier le travail des équipes disponibles.
Il va falloir retourner sur des organisations à 3 infirmières sur la journée plutôt que 4, avec des horaires dérogatoires de 10 heures par jour pour certains secteurs.
Finalement, c'est beaucoup de travail de réorganisation pour libérer ne serait-ce que 3-4 lits dans les prochains jours. Et certains ici n'hésitent pas à dire qu'on n'en serait pas là si tout le monde était vacciné.
Bonjour Marie-Françoise Bragard.
Bonjour.
Chef du pôle médecine urgence, on vous entendait dans ce reportage vous inquiéter pour le week-end. On était donc dans la cellule de crise Covid. Ce qui est saisissant, alors je rappelle les chiffres que citait Véronique, 93% de taux d'occupation, 20% d'opérations de chirurgie déjà déprogrammées. Au fond, pour une dizaine de malades, l'hôpital est en train de se réorganiser.
Effectivement, donc nous avons 10 malades Covid, on peut en accueillir une douzaine sur l'unité Covid et quelques autres dans les chambres d'isolement des secteurs, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dépasser 18 patients Covid. Donc si on dépasse ce nombre dans les prochains jours et en particulier en début de semaine prochaine, il va falloir à nouveau déprogrammer toutes les activités programmées, en particulier donc de la chirurgie programmée, mais aussi toutes les activités de diagnostic ou de traitement programmées dans les autres services de médecine.
En sachant que la particularité ici, il n'y a pas de réanimation à proprement dire. Donc, si vous devez, s'il y a des soins de réanimation nécessaires, les patients doivent être envoyés ailleurs.
Tout à fait. Nous avons une unité de soins continue où nous pouvons accueillir des patients, mais qui ne peuvent pas rester intubés, ventilés pendant plus de 48 heures. Et donc, nous devons transférer sur des unités plus lourdes à Nancy, Strasbourg ou Épinal.
Alors, on a beaucoup parlé d'emmerdement hier, docteur Bragard. La moitié des malades sont des non-vaccinés, ce qui est bien supérieur à leur proportion en population générale. Ça a quelles conséquences pour vous ?
Tous les patients qui ne sont pas vaccinés donc arrivent avec des formes beaucoup plus graves et donc nécessitent des soins plus lourds et donc amputent les autres services de possibilités chirurgicales ou de possibilités médicales. Et donc, des patients vaccinés ne peuvent pas être soignés à cause des patients Covid non vaccinés.
Encore une question et puis on vous retrouvera tout à l'heure, docteur Bragard. Le pic hospitalier d'Omicron n'est pas attendu avant la mi-janvier. Comment voyez-vous les jours et les semaines à venir ?
Pour les deux semaines à venir, nous sommes très inquiets. Vraisemblablement, il faudra donc redéprogrammer et augmenter l'unité Covid, peut-être au milieu de semaine prochaine. Donc encore des patients en souffrance pour les autres pathologies.
Voilà Jérôme Cadet pour ce premier coup de sonde à l'hôpital de Saint-Dié. On retrouve le docteur Bragard et le professeur Mestelman tout à l'heure dans l'émission. J'ajoute, Jérôme, qu'à côté de notre hôtel, il y a un laboratoire d'analyse médicale.
Oui.
Et en sortant ce matin, nous avons déjà croisé une jolie file d'attente, sachez-le. Je crois que vous en parlez dans un instant. L'hôpital au carrefour de toutes les préoccupations à moins de 100 jours de la présidentielle. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Nous sommes à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges.
France Inter, le 13-14... Bruno Duvy.
Précisément installé à l'entrée, là où les patients qui ont rendez-vous pour une consultation se présentent. Il y a pas mal de monde autour de moi. Et une image d'un endroit juste à côté, l'aile où nous avons préparé cette émission. Eh bien, c'était il y a un an, le poste d'urgence Covid. Lors de la première vague, les urgences traditionnelles étaient pleines. Il reste quelques stigmates de cette période, des panneaux, attente couchée, attente assise, et une grande salle où sont alignés les robinets d'alimentation en oxygène. Alors cela nous remet en tête trois choses. La violence de la première vague ici, dans le Grand Est. La phase actuelle de l'épidémie de Covid est nettement moins rude, mais elle vient peser après 2 ans plus qu'éprouvant et dans un contexte de manque de personnel. Avant d'entendre nos invités, Véronique Julia, spécialiste des questions de santé à France Inter, on vous retrouve. Et nouvelle illustration en reportage avec vous. Il y a ici 47 praticiens hospitaliers pour 250 lits et près de la moitié des praticiens sont des médecins d'origine étrangère, notamment hongroise, bulgare ou roumaine. La moyenne d'âge tourne autour de 55-60 ans, ce qui pose évidemment la question de la relève. La ville de Saint-Dié attire peu, on manque de médecins partout, la diabéto, la gastro, l'obstétrique. Autre exemple avec vous Véronique, la pédiatrie, il y avait 2 titulaires, l'une des 2 va partir, on ne lui a pas trouvé de remplaçant, celle qui reste est déjà débordée et ça ne va pas s'arranger.
Et oui, 10 ans qu'elle cherche un successeur, qu'elle tente de préparer sa sortie, elle a cherché à Nancy, à Strasbourg, rien n'y fait. Aujourd'hui, le docteur Sylvana Trévisan approche des 70 ans, sa santé est fragile, elle ne travaille déjà plus que 2 jours par semaine ici. Le 1er avril prochain, elle s'en ira pour de bon à la retraite. À ce jour, personne pour prendre la suite.
Disons que là, ça devient difficile vu ma condition physique parce que j'ai eu des ennuis de santé. Donc, ça a tiré la sonnette d'alarme. Et là, moi, je ne peux pas continuer, c'est clair. On n'a trouvé personne, pas de candidature. Je m'inquiète de mon départ, c'est terrible, hein.
Et pourtant du travail ici, on n'en manque pas. 10 lits de pédiatrie, plus les consultations, les urgences, les naissances, les sorties de maternité, la vaccination Covid des enfants aussi depuis hier. Il n'y a jamais eu ici autant de travail.
Il y a du boulot. Il y a du boulot pour 2 pédiatres.
La personne qui travaille avec vous, elle peut pas assumer toute seule.
Non, bien sûr que non. Il y a des astreintes qui doivent être faites tous les soirs. Et là, ma collègue, au courant du mois de janvier, elle a 17 astreintes par mois. c'est des sommes à considérer, quoi.
Le seul espoir du docteur Trévisan aujourd'hui, ce sont deux pédiatres algériens qui sont en renfort dans le service et qui veulent rester, mais qui n'ont pas encore leur équivalence de diplôme en France. Dès qu'ils l'auront, bientôt on l'espère, ils seront sans doute la solution à cette vacance de poste qui menace pédiatrie et maternité.
Et pour prolonger la discussion sur le manque de personnel à l'hôpital, trois invités à nos côtés, Véronique, le docteur Pascal Mattei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission médicale d'établissement, Bruno Husson, bonjour. Infirmier en EHPAD, un EHPAD qui dépend de l'hôpital, vous êtes représentant CFDT. Et bonjour Isabelle Quincy. Bonjour. Infirmière anesthésiste, représentante CGT pour votre part. Docteur Mattei, je voudrais d'abord qu'on parle d'un sujet qu'évoquait Véronique Julia ce matin dans le journal de 8 heures. L'impact des déprogrammations au fil des mois de Covid. En une semaine, trois patients diabétiques qui n'ont pas pu être soignés aussi bien que d'habitude ou parce qu'ils ne voulaient pas venir à l'hôpital. Trois patients qui ont dû subir des amputations d'orteils. Les conséquences à bas bruit des déprogrammations en période de Covid, on commence à les voir, docteur Mattei.
Je pense qu'on commence à les voir. Et dans les semaines à venir, on les verra un petit peu plus.
Oui.
Que ce soit sur la diabétologie ou la cancérologie ou même de la chirurgie, je dirais un peu plus fonctionnelle que des urgences. Je crois que dans les semaines à venir, on va voir l'impact, pas seulement des déprogrammations, mais aussi des craintes que peuvent avoir les patients de venir à l'hôpital, les difficultés que peuvent avoir certains patients, parce qu'on est quand même dans un territoire rural, à accès aux soins, toutes ces conjonctions, les unes mises au bout des autres, entraînent des difficultés de la prise en charge et des patients beaucoup plus lourds à prendre en charge.
On entendait au début du journal un autre reportage de Véronique, taux d'occupation des lits 93%. Ça vous amène à réaliser des choix cornéliens tous les jours, à arbitrer entre des urgences tous les jours quasiment.
Quasiment tous les jours, on se pose des questions. Heureusement, on a des petites réunions pluridisciplinaires entre médecins où on parle de chaque cas. Pour le moment, on n'a pas eu de choix cruciaux à prendre en charge. Oui. On arrive malgré un fort taux d'occupation actuellement des patients, je dirais, non Covid.
Oui.
On n'a pas eu actuellement à prendre de choix difficiles pour nous. On est là pour soigner tout le monde. J'espère que dans les semaines à venir, on n'est pas à le faire.
Le manque de personnel, pour poser une question claire, où manque-t-on de bras ici à l'hôpital de Saint-Dié? Dans quel service, quelle spécialité?
On manque un petit peu de bras, je dirais un peu partout, que ce soit des bras médicaux ou des bras soignants. Je dirais dans chaque service, on manque ou d'un médecin, ou d'une ou deux infirmières, ou d'une ou deux soignantes. Parce que nos patients sont plus lourds, nos patients, on a beaucoup de difficultés à prendre en charge.
On est à 15% de personnel manquant, je crois. Je me tourne vers Bruno Husson et Isabelle Quincy. En ce qui concerne les infirmiers et infirmières, on est à 25 sur un total d'à peu près 200. Pour votre EHPAD, Bruno Husson, Foncharu, qui dépend de l'hôpital, on commence à rappeler des gens sur leur congé.
Oui, ça nous est déjà arrivé. Actuellement, là, dans la période de janvier, non. Mais sur l'année 2021, on a déjà eu le cas. On a aussi dû changer nos habitudes de travail, c'est-à-dire que au lieu de travailler par équipe de 7h30, il a fallu repasser à du 12h pour
c'est
justement
ça.
Pallier à l'absence de nos concerts.
Des plages de travail plus longues, ça veut dire, Isabelle Quincy, qu'au fil des mois, les conditions de travail se dégradent.
Voilà, c'est ça, parce que effectivement, en plus de cette crise qui nous est arrivée subitement, comme dans tous les hôpitaux, donc les équipes ont été fortement mobilisées. Comme je le dis, les cloisons se sont effondrées. Le personnel a été vraiment mutualisé, donc s'est retrouvé à effectuer des soins dans des services qui n'étaient pas les leurs. Mmh. Donc ça a quand même généré beaucoup de stress, de fatigue supplémentaire et de capacité d'adaptation qui ont été quand même importantes à produire.
Ouais.
Et puis après tout ça, il a fallu quand même continuer à enchaîner sur les pathologies habituelles et même avec des prises en charge retardées, comme le disait Monsieur Mattei. La longueur des efforts a généré tout de même un épuisement professionnel qui fait qu'actuellement, on se retrouve avec un taux d'absentéisme assez important
et
aux arrêts maladie.
Et on apprécie que vous soyez là parce que, par exemple, vous étiez de garde cette nuit.
Oui.
Voilà. Et vous reprenez quand?
Je reprends demain, voilà, mais ça c'est notre lot quotidien à tous, il y a moi, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives, de contraintes horaires, même sans avoir de garde, qui sont difficiles à enchaîner. Hein. Le personnel finit souvent tard le soir, peut reprendre très tôt le matin, et sont même amenés à être rappelés sur leur jour de congé pour pouvoir pallier à des absentéismes dans d'autres services.
Les cycles horaires, Emmanuel Macron, dans son interview au Parisien, évoquait hier le fait que, au-delà de la question du salaire dont on parle dans un instant, le rythme de travail pour les infirmiers, c'était vraiment quelque chose de difficile et qu'il fallait travailler là-dessus. S'il y a une piste de réforme, elle est de ce côté-là, de votre point de vue à tous les deux. Bruno Husson.
Pour nous, pour la CFDT, en fait, on est surtout dans un manque de recrutement d'effectifs. On aurait plus une politique un peu de savoir si on peut pas attribuer un certain nombre de patients, faire une quantité patient-soignant, oui. Comme on a dans des services dédiés déjà, hein, la réanimation, on a. Nous, on est plus confrontés à ces difficultés-là. Par exemple, si on prend le médico-social, aujourd'hui, on est confrontés à des infirmiers qui vont gérer pour un poste 70 résidents, voire plus.
Un poste, oui. 70 résidents.
Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait plutôt, c'est pouvoir mettre en place... c'est un choix, je veux dire, le rythme de travail, jour, nuit, les alternances, travailler sur les jours fériés, travailler les dimanches, ça fait partie quelque part du métier, on le savait en y allant. Hein. L'hôpital ne ferme pas à 19h et il ne ferme pas les jours fériés.
Ouais. Mais donc, moins de patients par infirmier.
Mais voilà, oui, enfin, oui, essayer d'équilibrer à la charge de travail pour que ça reste humain.
Alors, lors de nos émissions délocalisées jusqu'à l'élection présidentielle, le service politique de France Inter sera de la partie. Que proposent les candidats en réponse à toutes les questions que soulèvent nos invités? Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios de France Inter à Paris. Vous inaugurez la formule, Élodie. Alors, contre le manque de personnel à l'hôpital, que proposent les candidats?
Eh bien, de recruter et de payer davantage. À droite, Valérie Pécresse supprime certes 200 000 fonctionnaires, mais crée 25 000 postes à l'hôpital. Qui dit mieux? Le communiste Fabien Roussel. 100 000 soignants supplémentaires pour l'hôpital public. Recrutement massif de personnel, dit aussi sans chiffrer la socialiste Anne Hidalgo. Deuxième axe, le salaire. Anne Hidalgo toujours promet une grande négociation. Aller au-delà du Ségur, c'est également dans le programme de Marine Le Pen. 10% de plus pour les infirmiers et infirmières pour atteindre le salaire moyen européen. Mesure que la candidate du RN veut notamment financer en supprimant l'AME, l'aide médicale de l'État pour les étrangers en situation irrégulière. L'attractivité de l'hôpital, c'est enfin l'une des préoccupations de l'écologiste Yannick Jadot qui veut, entre autres, rénover tous les bâtiments vétustes.
Merci Élodie Forêt, on vous retrouve dans quelques minutes. Bruno Husson, Isabelle Quincy, on est tous pour qu'on recrute massivement des soignants. Mais première question, ce qu'on a décrit là depuis 13 heures, c'est un manque de soignants. On n'en trouve pas aujourd'hui, on aurait beau donner de l'argent pour en avoir davantage, ça ne réglerait pas la question de la pénurie de personnel, si?
Bah malheureusement, à l'heure actuelle, non. Parce que la pénurie, on parle des soignants, mais la pénurie qui est aussi, le docteur Mathilde l'a souligné, c'est le manque de médecins. Hein, et un médecin, c'est 10 ans pour être formé, au minimum, hein, selon la spécialité. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas les praticiens. On a le résultat d'une politique du numerus clausus qui a été introduite dans les années 80-90.
Ça monte en puissance quand même.
Ça monte en puissance, ouais. Mais... maintenant, ça va monter en puissance, mais ils ne seront pas diplômés avant une dizaine d'années.
Ouais.
Donc pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est pas pour rien qu'on ferme des lits aussi. On ferme des lits, c'est pas qu'une raison économique, c'est aussi, si vous n'avez pas de médecin, vous pouvez pas prendre en charge de patients. Donc on peut pas garder des lits ouverts vides de médecins.
L'attractivité, Bruno Husson, vous avez 45 ans, pardon, mais vous êtes payé combien?
En net ou en brut? Parce que ça, c'est le gros problème, c'est que dans les médias, on a une petite confusion.
Ah bah alors allez-y, clarifiez les choses.
Le
parlons en net. Qu'est-ce que vous avez dans la poche quand on vous verse le salaire?
Alors, dans la poche, après impôt ou avant impôt?
Après.
Après impôt, ouais. Je suis à 1978 euros.
Pour 6 ans d'ancienneté, parce que vous avez
6 ans d'ancienneté, c'est ça, voilà. Oui, tout à fait.
Le Ségur a arrangé les choses, Isabelle Quincy, ça suffit pas? Est-ce que la question du salaire est une question clé? Et on sait, on en parlera dans cette émission, qu'il y a une concurrence entre les hôpitaux. Est-ce que quand on est infirmier, on se dit, tiens, mais on va aller regarder ce que propose Épinal, ce que propose Nancy, ce que proposent les autres en termes de salaire?
Alors effectivement, je pense que le salaire doit être un choc d'attractivité pour l'embauche. Nous tenons quand même à noter que la politique de financement des hôpitaux depuis 2004 avec le plan Hôpital 2007
a été quand même menée d'une façon peut-être non appropriée, dans le sens où les hôpitaux ont été gérés.
Alors, vous allez me parler de la tarification.
Voilà,
on y reviendra tout à l'heure.
D'accord.
Mais moi, je reste sur le salaire, parce
d'accord.
qu'après tout, Ségur, entre les hausses de salaire, les primes, c'est à peu près quoi, 300 euros?
Alors, ça, en fait, ça dépend du point, de votre catégorie, de l'échelon dans lequel vous êtes.
Ouais.
Et effectivement, il y a eu le Ségur 1 qui a revalorisé quand même toutes les professions médicales, le Ségur 2 pour les professions médico-soignantes. Mais je pense qu'on peut encore faire des efforts pour essayer de motiver les sorties d'instituts de formation.
Ouais.
Pour encourager les futurs professionnels avec un salaire plus attractif.
Docteur Mattei, qu'est-ce qu'on fait pour attirer du monde à l'hôpital de Saint-Dié?
Comme vous l'avez dit, je pense que le Ségur est une réponse que partielle à attirer le monde à l'hôpital et à l'hôpital de Saint-Dié. L'hôpital de Saint-Dié, on a deux problématiques. On a la même problématique que tous les hôpitaux nationaux de recrutement, de personnel, de ressources humaines, qu'elles soient médicales ou soignantes. Et on a aussi une problématique géographique.
Oui.
On est le seul hôpital sur un massif montagneux, d'accès des fois un petit peu difficile, et on le voit aujourd'hui avec la neige.
Pour 100 000 habitants à peu près. Hein.
Pour à peu près 100 000, 120 000 habitants. Et si on
pour
se
la zone,
sur...
hein. Saint-Dié voilà. c'est 20 000 habitants et la zone de l'hôpital c'est 100 000.
Et là, on travaille avec les politiques, et ce que nous avons déjà engagé pour l'accueil des internes, pour...
Alors c'est quoi concrètement? On rénove l'internat, par exemple?
On a rénové l'internat de fond en comble, on a prévu pour eux des moments de distraction, on travaille avec la mairie et les commerçants de Saint-Dié pour leur faciliter certains accès, en particulier à la piscine
municipale,
complexe aquatique.
Ouais. Et en termes de salaire, vous avez, vous, hôpital, des marges de manœuvre pour dire, je sais pas, on vous verse des primes, on facilite l'intégration la titularisation des infirmiers. Vous avez des marges de manœuvre de cette nature-là ou pas?
On facilite l'intégration et les CDI des infirmiers et de soignants.
Quand on parlait de création massive de postes dans les programmes électoraux, juste une question, est-ce que vous y croyez quand on parle de 25 voire de 100 000 créations de postes de soignants? A priori, je pense pas que ces candidats nous disent qu'ils vont massivement augmenter les impôts. Est-ce que vous y croyez? Vous dites oui, ça y est, on va les voir.
J'y crois qu'à moitié. L'intention est peut-être là, le problème c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut les trouver. Il faut trouver ces 100 000 soignants, que ce soit un médecin, une aide-soignante ou un infirmier, on le forme pas en 5 minutes ou par la volonté de le faire. Comme l'a dit Isabelle Quincy, c'est des rappels sur les congés, c'est pas de week-end, c'est si on travaille ce qu'on appelle en contre-équipe avec son épouse ou son époux, ben on se voit jamais. Ben c'est quand même une vie qui est difficile et on trouve pas les volontaires comme ça en 5 minutes.
Isabelle Quincy, dernière question. Je sais que la question de l'attractivité du territoire, vous y êtes attachée. On va entendre un témoignage dans un instant. Mais enfin, il y a une école d'infirmiers et d'infirmières qui dépend de l'hôpital. L'année dernière, 30 élèves dans la promo, pas un n'est resté à Saint-Dié.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse fuite par rapport certainement à l'activité libérale qui est plébiscitée. C'est vrai qu'avec la direction, en réunion de partenaires sociaux, on essaye de créer des conditions d'embauche qui sont favorables, en tous les cas qui s'alignent sur des hôpitaux de grande envergure.
Oui.
Tels que Nancy, c'est-à-dire un CDI assez rapidement, avec des conditions qui peuvent s'aligner et être concurrentielles par rapport à d'autres endroits. Mais effectivement, après, les choix restent personnels. Même les gens qui sont attachés à cette région peuvent effectivement aller voir ailleurs. Mais peut-être un jour pour revenir aussi.
Merci à tous les trois. Juste une dernière question, docteur Mattei. Hôpital plus grand, Nancy par exemple, hôpital plus riche, est-ce que ça veut dire ça?
Non, ça veut dire pour nous, hôpital de recours, on retrouve des spécialités, des sur-spécialités qu'on n'a pas ici.
D'accord, merci à tous les trois. Alors ce témoignage que je vous avais promis au micro de Véronique Julia, il s'appelle Jocelyn, il a 24 ans, il est étudiant en troisième année à l'Institut de formation en soins infirmiers ici à Saint-Dié. Troisième année, ça veut dire qu'il sort diplômé dans quelques mois. Il a bien aimé étudier ici, mais de là à s'installer durablement. Et dans la dernière promo, on le disait, aucun étudiant n'a choisi Saint-Dié. Ils ont en général préféré, comme lui, les grandes villes.
Moi, mon projet professionnel après la formation sera de retourner plus sur Nancy. Parce que l'hôpital, c'est un hôpital universitaire, donc il offre plus de possibilités de formation et d'évolution dans mon parcours professionnel.
Saint-Dié a aucune chance de vous retenir.
c'est pas aussi poussé dans la recherche et dans les possibilités d'évolution.
Mais c'est la ville contre la campagne ?
Un petit peu aussi. Mais par contre, sur Nancy, eux, ils proposent un programme de parrainage. Donc, ils nous financent les derniers mois de notre formation, en hauteur d'environ un peu moins de 1500 euros. En échange de quoi, on doit travailler pendant un certain temps pour eux. C'est un argument qui a fortement joué dans mon choix.
Et pour prolonger la discussion, trois nouveaux invités, vous en avez déjà entendu deux d'entre eux, docteur Marie-Françoise Bragard, cardiologue, chef du pôle médecine urgence ici à l'hôpital de Saint-Dié, le professeur Claude Mestelman, professeur d'anesthésie réanimation au CHU de Nancy, qui travaille très régulièrement ici, et puis également autour de la table, le maire de Saint-Dié. Bonjour David Valence.
Bonjour.
On vient d'entendre Jocelyn, là, l'infirmier, dire « c'était chouette d'étudier à Saint-Dié, mais je vais pas y rester, je préfère aller à Nancy ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous faites pour que des Jocelyn restent à Saint-Dié?
Bah déjà, je crois que pour valoriser la fonction d'infirmier et pour inciter un maximum de personnes à s'engager dans cette carrière-là, il faut en parler différemment. Ça reste un métier formidable, humainement. C'est un métier de passion, c'est un métier où on donne pour les autres, c'est un métier qui donne du sens à la vie. Et ça, je crois que avant de se lancer dans des descriptions qui sont parfois très noires, il faut le dire parce que c'est ça d'abord la réalité du métier.
Ça d'accord, mais une fois qu'ils sont formés, ils veulent aller plutôt à Nancy, plutôt à Strasbourg, plutôt à Épinal qu'à Saint-Dié, ville voilà moins importante et où de jeunes infirmiers préfèrent aller ailleurs.
Alors, vous savez par exemple que la ville vient de rouvrir une ligne ferroviaire, elle est facilement accessible.
On en parlera tout à l'heure.
Vous pouvez aller facilement en train à Nancy.
Donc la question des transports,
consommer des loisirs. Ouais. Vous pouvez aller facilement à Strasbourg, on a sauvé cette ligne avec la région en 2018. Ouais. Et maintenant vous pouvez aller facilement à Épinal. Donc l'un des critères d'attractivité, c'est la façon d'aller dans une ville. On peut y aller facilement par la voiture, par le train. Ensuite, adapter une ville, c'est l'adapter aussi aux familles.
Voilà.
On a créé des grands espaces verts en centre-ville, un grand jardin public en centre-ville avec des jeux. C'est aussi maintenir des emplois, c'est-à-dire un écosystème industriel, économique, qui est incitatif, qui est dynamique. En ce moment, on a une entreprise de 200 personnes qui s'installe ici. Et puis, c'est valoriser le cadre de vie. Vous avez dû voir qu'à Saint-Dié-des-Vosges, on est au cœur de la montagne et en même temps, on n'est pas enclavé, on n'est pas inséré. Et donc, moi, je crois que c'est important de dire une chose. Dans nos territoires, dans nos villes moyennes, et on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les confinements, la qualité de vie, elle est sans commune mesure avec celle qu'on peut trouver
c'est
parfois
ça que vous
dans
défendez.
Des grandes villes. Et c'est un ancien Parisien qui vous le dit.
Et pardon, encore une question, et puis on entend nos deux autres invités. Les infirmiers, les médecins, qui sont un peu en position de force, est-ce qu'ils vous disent, écoutez, moi je veux bien venir, mais trouvez un job à mon épouse ou à mon époux, et trouvez-moi une place à l'école. Ils vous disent, c'est de cette nature-là aussi?
Alors, c'est ce que fait le plan santé du département, qui marche très très bien, notamment pour les médecins libéraux,
ouais.
Où le département accompagne, y compris les épouses des médecins, qui veulent s'installer en centre-ville, à Saint-Dié-des-Vosges, comme à Neufchâteau ou à Épinal.
Claude Mestelman, avant d'entrer dans le détail, on vous a entendu dans les titres du 13h, il vous manquait une infirmière au bloc opératoire. Deux minutes plus tard, on a appris qu'il en manquait trois. On en est où, là, à 13h44 ?
On en est au même point, bon. Trois infirmières avec des prélèvements positifs ou des suspicions de Covid. Et c'est ce qu'on va encore vivre pendant une quinzaine de jours. On s'y attend et on s'y prépare.
Ce qui veut dire que là, il y a des opérations qui sont en balance et qui peut-être ne pourront pas avoir lieu dans les heures ou les jours à venir.
Pour le moment, on n'a pas dû déprogrammer comme l'ont fait nos collègues parisiens depuis une quinzaine de jours. Mais il n'est pas impossible, parce qu'on est en décalage sur les infections Covid par rapport à d'autres régions, que pour les 15 jours qui viennent, on déprogramme un certain nombre de patients.
Docteur Bragard, je repose la question qu'on a évoquée dans le premier plateau. Y a-t-il une concurrence aujourd'hui pour attirer du monde entre les hôpitaux? Vous nous avez parlé en préparant cette émission de l'hôpital d'Épinal qui publie une annonce pour un spécialiste à 15 000 euros par mois, par exemple.
Oui, effectivement, nous avons vu apparaître cette annonce sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a une concurrence entre les différents hôpitaux. Nous, pour l'instant, nous essayons de nous en tenir aux recommandations, à ce qui est permis par la loi. Et effectivement, donc, il y a certains médecins qui ne viennent pas chez nous à cause de ça, quoi.
Question clé pour vous, les internes, quand ils arrivent, essayez de les bichonner pour qu'ils restent, bon sang.
Bien sûr. Les internes, c'est des médecins en devenir pour notre territoire. Et non seulement les internes, mais on essaye aussi de les avoir auparavant, c'est-à-dire après leur stage de première année de médecine, puis ensuite quand ils sont externes, puis ensuite quand ils sont internes. Et s'ils se plaisent à l'hôpital de Saint-Dié, s'ils y trouvent un lieu de travail correct, si l'environnement leur convient, ce sont des médecins qui après viennent travailler chez nous. Et on a l'exemple, s'il suffit de regarder les derniers installés ou les derniers arrivés équipes sur l'hôpital sont le plus souvent des gens qui ont travaillé avec nous comme internes.
Vous êtes un médecin d'expérience, vous pensez déjà à la personne qui vous remplacera, est-ce que vous savez qui, est-ce que c'est identifié ?
Ben, depuis 18 mois, on a un médecin cardiologue qui est arrivé de Nancy. Pour l'instant, il est à temps partagé au CHU et à Saint-Dié. Mais il a la volonté de rester sur Saint-Dié dans les prochains mois. Mais notre espoir, nous, dans l'hôpital de Saint-Dié, et vu notre territoire, c'est d'avoir beaucoup de médecins de ce type-là pour qu'ils puissent garder une activité spécifique et pointue au CHU et puis faire l'activité plus de routine et plus quotidienne, donc dans les hôpitaux de notre taille.
Docteur Mestelman, la question clé, c'est celle de la mauvaise répartition des médecins, au fond.
Oui, mauvaise répartition, parce que les jeunes médecins sont attirés souvent par les villes de faculté. Mais je crois qu'il faut quand même relativiser. Ah. Ici, on a un hôpital de qualité, avec une chirurgie et une médecine de qualité. On a un plateau technique qui est excellent. Moi, j'ai été très agréablement surpris quand je suis arrivé à
Nancy,
ouais, à Saint-Dié, il y a un an, par la qualité du plateau technique, avec un hôpital qui est moderne. Et je pense que les Vosges, et Saint-Dié en particulier, ont des moyens d'attirer des jeunes médecins. D'autant qu'il faut, il y a une chose importante, c'est que on parlait de 100 à 120 000 personnes dans le bassin de population. On arrive plutôt à 150 000 quand on va jusqu'à Gérardmer. Et le CHU de Nancy ne peut pas prendre en charge les patients que Saint-Dié prend habituellement en charge si l'activité devait baisser. Donc, on a une obligation de réussite et de travail de qualité pour redonner du dynamisme. Et on est sur la bonne voie.
Et vous vous dites, jeune docteur, le plateau technique est très bon ici, venez, vous pourrez travailler dans de bonnes conditions. Et puis le numerus clausus qui a augmenté, ça va se voir quand même au bout d'un moment, professeur.
Non seulement ça va se voir, mais nous c'est un problème qu'on discute à la faculté de médecine de Nancy, parce que quand on augmente, on a doublé, on est passé de 3500 à 7000 étudiants, mais que l'année dernière, on nous rajoute 20% d'étudiants en médecine supplémentaire. La formation, on ne peut pas la faire uniquement au CHU. On a besoin d'établissements comme Saint-Dié qui reçoivent, comme le disait ma collègue Marie-Françoise Bragard, des internes, des étudiants en médecine. Les stages hospitaliers, ça commence en troisième année. Donc il va falloir très vite augmenter les capacités de formation sur Saint-Dié.
Les 7000, ils sortent quand ?
Ah ben les 7000 sortent actuellement, on est même plus près de 8000 actuellement, donc c'est pour ça qu'il y a des postes d'internes ici, voire de docteurs juniors.
David Vance, on a parlé du manque de médecins à l'hôpital. En ville, de quel type de praticien manquez-vous ?
On manque de spécialistes, par exemple en gynécologie, en pédiatrie, en ophtalmologie. Et on manque aussi de généralistes, parce que beaucoup d'entre eux vont prendre leur retraite. Alors, il y a des solutions pour cela. Il y a le plan santé du département que j'ai évoqué, où il y a vraiment une prise en charge quasiment de A à Z des jeunes internes qui se préparent à exercer la médecine, pour pouvoir les inciter à venir s'installer dans des villes comme les villes vosgiennes. Et puis, il y a l'accompagnement pour les maisons médicales. Alors, il y en a une qui fonctionne très bien à Saint-Dié même, qui est groupé autour d'une pharmacie. Aujourd'hui, on accompagne la ville de façon assez forte un projet de création d'une nouvelle maison médicale. Pourquoi ? Parce que les médecins d'aujourd'hui veulent plus travailler comme ceux d'il y a 10 ou 20 ans. Et ils veulent pouvoir être dans une communauté médicale et ne plus nécessairement avoir des horaires à rallonge comme autrefois.
Allez, d'autres pistes de réforme. Élodie Forêt, vous êtes toujours là dans les studios France Inter à Paris.
Oui, je suis toujours là.
On vous retrouve, service politique. On parlait du personnel tout à l'heure dans les propositions des candidats à la présidentielle. D'autres réformes structurelles à présent dans leurs propositions, Élodie.
Oui, il y a une bête noire, hein, Bruno. Les ARS, les agences régionales de santé, Anne Hidalgo et Éric Zemmour veulent les supprimer car elles participent, pour ce dernier, je cite, à la technocratisation de la gestion de la médecine. Dans le viseur aussi, la tarification à l'acte, la fameuse T2A instaurée en 2004. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon souhaitent revenir à la dotation globale de fonctionnement avec un moratoire sur la fermeture des lits. Sur une organisation plus globale, cette fois de la santé, revient beaucoup la question des déserts médicaux. Embauche de 1000 médecins salariés par l'État, préconise Éric Zemmour. Recrutement de médecins public, dit aussi Jean-Luc Mélenchon, ainsi qu'une augmentation des moyens pour les facs de médecine pour véritablement supprimer le numerus clausus.
des médecins publics. Je me tourne vers les deux hospitaliers qui sont à la fois membres du service public et en même temps médecins, donc sans doute attachés à l'exercice libéral de la profession. Des médecins salariés et publics, est-ce que c'est une piste contre les déserts médicaux ? Docteur Bragard.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est une piste intéressante. On a vu des départements où ça fonctionne très bien. Les médecins ne veulent plus actuellement avoir des horaires à rallonge, comme cela a déjà été dit. Et donc, ça permet d'avoir des activités plus régulées et de travailler de façon plus agréable.
Et vous pensez que vos jeunes collègues accepteront ?
J'espère.
Professeur Mestelman, sur cette question ?
Moi, je vais reprendre les propos de Monsieur le maire, c'est-à-dire qu'il faut offrir un package maintenant. Il faut prendre ce package. C'est effectivement, si le conjoint a un emploi, il faut l'aider. Il y a les maisons médicales pour les praticiens qui s'installent en privé. Je pense pas que c'est le problème de ce côté salarié, etc. C'est un vaste problème d'organisation, c'est-à-dire que le médecin, il a plus envie, comme on l'a dit, d'être seul. Donc, on a intérêt, dans des établissements, à avoir toutes les activités. Et puis, c'est un effet boule de neige, parce que si vous avez à la fois des radiologues compétents, des cardiologues compétents, ben, un médecin généraliste, il aura plus tendance à venir là, de par la présence de moyens et de collègues dans les autres disciplines.
Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase à quoi servent les ARS, et est-ce que les candidats qui cognent sur les ARS vont trop loin, ou est-ce qu'il y a une partie de fondée ?
Je crois que le Ségur de la santé, et moi là je vais prendre ma casquette de membre d'un comité, d'un syndicat, ouais. Eh bien il est clair qu'il faut qu'on arrive à via ce Ségur, hein, c'était d'ailleurs l'objet des propositions Clarisse, à un changement de gouvernance. Il faut un peu donner d'air aux décisions médicales. Mais c'est pas que la faute des ARS, c'est que depuis la mise en place du plan HPST, on n'a parlé que de deux choses.
Hôpital et territoire.
Voilà,
hein,
ouais. C'est la T2A et la diminue le personnel. On s'est rendu compte avec le Covid qu'on était, si vous me passiez l'expression, à l'os. Ouais. Donc il faut redonner de l'oxygène. Mais c'est tout le milieu de la santé et le fonctionnement hospitalier qu'il faut un peu modifier. Le rapport Clarisse a donné beaucoup de pistes et d'espoir.
Au fond, lors de la première vague, les médecins avaient pris le pouvoir et l'ont reperdu un petit peu à l'hôpital.
Moi, je sors de ces discussions de pouvoir.
Il n'y a pas des gentils médecins et les méchants fonctionnaires.
Personnellement, je viens d'un centre anticancéreux prestigieux, l'Institut Gustave Roussy. Dans le centre anticancéreux, il y a à la fois un médecin qui est directeur et un directeur administratif. Et ils travaillent en très bonne intelligence. C'est ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est ce qui se passe également dans des pays comme la Hollande ou l'autre. Et je pense que ça fonctionne très bien. Donc, faut, je dirais, améliorer les gouvernances. Maintenant, taper sur l'ARS, c'est facile, ça ne résoudra jamais les problèmes.
Sortir de la tarification à l'activité, docteur Bragard, en gros, avant, on finançait un hôpital, désormais, on finance par activité, ce qui amène à privilégier éventuellement des opérations qui rapportent sur la prévention, par rapport à la prévention. Est-ce qu'il faut en sortir complètement, partiellement ?
En sortir, ça c'est sûr qu'il faut en sortir. Peut-être partiellement, c'est sans doute une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse retrouver la possibilité de faire de la prévention, ce qui a été complètement oublié dans les dernières années à l'hôpital public, faire de l'éducation thérapeutique, motiver les patients pour qu'ils se prennent en charge aussi, parce que c'est une grande partie de leurs soins. Et tout ça, on ne peut plus le faire actuellement parce que ce n'est pas financé du tout. Donc on a pu le faire un certain temps avec des infirmières qu'on arrivait à trouver des quarts de temps par-ci, des quarts de temps par-là. Mais maintenant, comme disait Monsieur Meistelman, nous sommes à l'os, donc tous ces postes-là ont été supprimés et donc tout ça ne se fait plus et c'est une grande perte de chance pour la prise en charge des patients.
Alors on va parler d'un dernier sujet qui tient à cœur au maire David Valence. Quand on parle de l'importance du service public sur un territoire, et ça joue aussi pour les médecins, on le disait tout à l'heure, monsieur le maire, on pense à l'hôpital mais aussi au train. Et c'est ici à Saint-Dié qu'un train emblématique a fait son retour le 12 décembre dernier. Avec la remise en service de la ligne Épinal-Strasbourg, une de ces petites lignes qui avait fermé celle-ci en 2018. Alors Sarah Guibaudot a pris le train hier d'Épinal à Saint-Dié. La rame n'est pas pleine, il y a surtout des jeunes.
Alors là, je suis actuellement en apprentissage en pâtisserie à Moyen-Moutier. Donc moi, je le prends pour Saint-Dié-des-Vosges. Et depuis qu'il y est, bah, ça me permet de moins demander à mes parents de venir me chercher à Épinal. Pareil, quand je vais voir mes amis, je peux prendre le train.
Quelle heure ?
Moi, je prends le train Épinal-Bruyères pour faire mes trajets au niveau professionnel. Ça permet de bouquiner. Et puis le côté écologique, le train est là pour une personne comme pour 100, donc content d'être dedans le train.
Ça change beaucoup la vie parce que le bus c'est un peu chiant, c'est plus long.
Bienvenue à bord du TER Fluo à destination de Strasbourg-Ville.
Je suis étudiante à Strasbourg. La réouverture de la ligne Épinal-Strasbourg en passant par Saint-Dié, ça a quand même facilité beaucoup de choses. Déjà, ça a réduit le prix parce que par Nancy, il y a plus de kilomètres, donc c'est plus cher. Et puis le temps, c'est pareil, hein, on n'est que 2h30 au milieu de 3h et il n'y a pas de risque de louper de correspondance, il n'y a pas de stress.
Saint-Dié-des-Vosges, ici Saint-Dié-des-Vosges. Assurez-vous.
David Valence, maire de Saint-Dié, quelle importance le retour de cette ligne a-t-elle pour votre ville ?
D'abord, c'est la seule ligne en France qui a rouvert après une fermeture cette année, enfin plutôt l'année dernière, oui. en 2021. Donc c'est un symbole et ça a été permis, il faut le dire, par l'engagement à la fois de la région et du président de la République qui était venu ici en 2018. C'est très important parce que l'une des choses qui fait qu'on s'installe dans une ville, et ce sera de plus en plus vrai, c'est qu'on a le choix de pouvoir de temps en temps, et pas tout le temps, pour certains d'entre nous, mais de temps en temps pouvoir prendre autre chose que le véhicule individuel. Parce que la voiture, ça coûte cher, la voiture, ça pollue, on le sait, et les jeunes générations, ils seront de plus en plus attentifs. Donc pour nous, avoir une ligne de train qui nous permet d'aller à Épinal, qui est la ville principale du département, c'est très important. Et puis pour Épinal, pour Bruyères, pouvoir aller à Saint-Dié et à Strasbourg directement, sans rupture de charge, c'est très important. Vous savez, nous sommes dans des vallées où beaucoup de choses sont partis ou ont été très difficiles dans les années 60, 70, 80. Les gens ont eu l'habitude de perdre des choses. Là, c'est quelque chose qu'on a regagné. Et donc, moi, j'y vois une forme de symbole, d'une forme de renouveau du territoire. Vous allez me dire, quand on est élu, on est obligé de dire ça. Oui, je le crois.
Non, mais je crois qu'il y a aujourd'hui bien l'idée vraiment, ils ont beaucoup perdu et là, on gagne quelque chose.
Il y a vraiment des signes aujourd'hui dans le territoire qui montrent que la crise qu'on a vécue de la Covid-19, les confinements qu'on a vécus, c'est peut-être aussi une opportunité pour les villes moyennes.
Et maintenant, il va falloir réhabituer les gens à prendre le train ?
Eh bien oui, alors ça va prendre du temps. Évidemment, les gens ils reprennent pas le train du jour au lendemain. Y aller, là, ça fait 3 semaines, 1 mois que la ligne a rouvert. Évidemment que tout le monde n'a pas repris cette habitude. Mais ça prend au moins 1 an, 2 ans de réinstaller une ligne ferroviaire dans le paysage.
Merci à tous les trois. Cette émission arrive à son terme. Je remercie tous ceux que je dois remercier dans un tout petit instant. D'abord, quelques réclames, puis Mathieu Vidard.